On revient, si vous voulez, ou nous venons voilà, à l'épître que sœur Sylvain et sœur Mélanie nous a lue tout à l'heure. Et je voudrais faire le lien avec l'épître que nous avions lu dimanche dernier et que je vous avais commenté, qui montrait, ou dans lequel saint Paul décrivait les raisons profondes de la vie apostolique des apôtres, bien sûr, donc de sa, c'était presque une confidence de sa propre vie, mais aussi de tout chrétien, de tout membre du corps de Christ qui est apôtre, d'une autre manière, mais apôtre dans le monde. Et saint Paul continue aujourd'hui, bien que ce ne soit pas le chapitre immédiatement suivant, saint Paul continue aujourd'hui, hein, puisque nous coopérons avec Dieu. Par là, il résume ce qu'il avait dit précédemment. La coopération avec Dieu est un terme, une expression dont il faut s'imprégner. Nous sommes véritablement les collaborateurs de Dieu. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Pas par notre dignité, pas par notre propre pouvoir, mais parce que Dieu, dans son humilité, prend à créer les hommes pour être ses collaborateurs. Faibles collaborateurs qui portons la grâce de Dieu dans des vases d'argile, comme il disait dans l'épître de dimanche dernier, mais tout de même une réelle collaboration. Et vous tous, que ce soit Père Philippe, que ce soit moi-même, ou que ce soit vous, qui que ce soit, nous sommes d'une manière ou d'une autre, par les charismes que Dieu nous donne, nous sommes les collaborateurs, les coopérateurs de Dieu. Et pour cela, saint Paul nous dit, nous vous exhortons donc à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Quelques versets précédemment, 3-4 versets avant ceci, saint Paul disait, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Car toute notre vie chrétienne consiste à cela, nous laisser réconcilier avec Dieu. Si nous nous réconcilions avec Dieu, si nous acceptons en quelque sorte par notre repentir, si nous acceptons sa miséricorde, si nous acceptons de l'accompagner, de le connaître, de vivre avec lui et de vivre selon lui, ou pour plus précisément, comme je vous l'ai expliqué, de vivre de lui et en lui, à ce moment-là, c'est une véritable réconciliation, c'est une communion. Ça, c'est l'essentiel de notre vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne et toute notre vie humaine, même si elle n'est pas reconnue par tous, mais notre vie humaine, c'est cela, d'être collaborateur, d'être réconcilié avec Dieu, de faire un avec lui en Christ, par la puissance de l'Esprit-Saint et par la force des sacrements, par la prière, par notre ascèse, par tout ce qui fait la vie chrétienne. Mais c'est ça qui est notre but, et c'est ça qui est, comme saint Paul le disait dans l'épître de dimanche, c'est ça qui est la cause de notre joie et notre véritable espérance en tant que vertu. D'où peut venir notre joie? Non pas ce n'est pas une joie illusoire d'un monde qui serait facile où tout serait conforme à nos caprices, mais c'est que notre joie vient de la promesse effective et déjà en voie de se réaliser, perceptiblement réalisée, de cette présence de Dieu, de cette réconciliation avec Dieu qui nous fait vivre de sa vie et nous donne ainsi aujourd'hui même la vie éternelle. Et saint Paul justifie cette expression par une citation, car il a dit, c'est Dieu évidemment, « Au temps favorable, je t'ai exaucé et au jour du salut, je t'ai secouru. » Fin de citation. Et saint Paul conclut, et voici maintenant donc le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut, il n'est pas à attendre à l'avenir, il est aujourd'hui. Il y a, vous l'entendez dans les offices, dans certains offices, j'ai en tête particulièrement les offices de Noël, du temps de Noël et de la théophanie, aujourd'hui, mais ça on l'a la liturgie aussi, le aujourd'hui, aujourd'hui Dieu fait cela, aujourd'hui Dieu est avec nous, aujourd'hui Dieu nous apparaît, aujourd'hui Dieu nous sauve, aujourd'hui nous montons au ciel avec le Christ, ça c'est le jour de l'ascension, ça c'est aujourd'hui. L'aujourd'hui, ça ne veut pas dire à notre époque, ça veut dire tout de suite. Tout de suite, je suis avec le Christ. Tout de suite, je monte avec le Christ. Tout de suite, je vis avec lui. Tout de suite, il vit en moi et moi, je vis de lui. Il y a cependant, entre le moment, le temps favorable, c'est-à-dire celui de l'incarnation, et le jour du salut qui est le nôtre aujourd'hui, ou qui sera tout du moins en plénitude réalisé lors de la fin des temps, lors de la seconde parousie, il y a ce temps qu'on peut appeler d'un temps intermédiaire. Un temps où les choses, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, les choses sont déjà accomplies. Oui, vous êtes déjà mort et ressuscité en Christ. Oui, vous êtes déjà monté dans le royaume des cieux. Et pourtant, vous êtes encore sur terre. Il y a un temps, un entre-deux, si l'on peut dire. Un entre-deux où tout est déjà réalisé, mais tout est encore à venir. D'où les difficultés, notamment dans les traductions liturgiques. Par exemple, au début de la liturgie, que faut-il dire ? Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire béni que soit béni qu'il vienne le règne, le temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou béni est le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est les deux. D'ailleurs, en grec, il n'y a pas de verbe béni, le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est ambigu, nous on le dit comme ça en français aussi, pour laisser l'ambiguïté, si vous voulez, mais c'est pas parfaitement français. Il faudrait normalement choisir. Et on ne peut pas choisir. Et ça nous fait réaliser à combien nous sommes écartelés, crucifiés, entre ce que le Christ a déjà réalisé sur terre, et auxquels nous participons par les sacrements, et ce qui encore doit être accompli par notre collaboration avec Dieu. Ce temps intermédiaire, c'est un temps de grâce que Dieu nous donne pour cheminer, c'est un temps de conversion, un temps de retournement, un temps de choix. Mais les choix humains dans notre nature maintenant déchue, un jour on choisit blanc, le lendemain on tombe dans le noir pour essayer de tendre vers le blanc, mais on lorgne vers le noir. Enfin, constamment, nous marchons en dents de scie, mais tout le temps intermédiaire qui nous est donné, c'est pour tendre, avec la grâce de Dieu, à décider, à choisir d'être d'un côté ou de l'autre. Je ne vous dis pas quel côté il faut choisir, ça me paraît évident. Et notez que cette épître-là, qu'on pourrait illustrer aussi avec l'évangile de la résurrection du fils de la veuve de Naïm d'ailleurs, qui annonce la résurrection après la mort, la résurrection. Non, mais je ne vais pas faire je vous fais juste le lien, je vous le signale, mais on ne va pas l'analyser. Cette épître et cet évangile sont choisis justement pour le temps d'après la croix, c'est-à-dire dans ce temps d'attente de la résurrection. La croix est pour nous la croix glorieuse, nous sommes encore dans l'attente de la résurrection, et pourtant la résurrection est apparue. Et liturgiquement, après la croix, quelle est la fête qui va venir ? Ça va être le début, si je puis dire, les prémices de la résurrection, par l'incarnation que l'on va fêter à Noël, la théophanie, etc., jusqu'à l'ouverture, la préparation ascétique, ce nouveau temps intermédiaire que seront les carêmes, qui nous amèneront d'abord à Noël, et puis ensuite à Pâques, avec la résurrection finale, et jusqu'à l'ascension et la Pentecôte, qui est l'apothéose de tout cela. Voilà toute l'évolution. Voilà en quoi nous sommes les nous sommes dans le jour du salut. Je finis le texte de Saint Paul pour que nous l'ayons en tête. Ne donnons donc à personne occasion de scandale, afin que notre ministère ne soit pas vilipendé, mais recommandons-nous comme serviteurs de Dieu par beaucoup d'endurance dans les tribulations, dans les nécessités, dans les angoisses. Il est lucide, hein, Saint Paul, hein. Sous les coups, dans les prisons, n'ayez pas peur, ça va vous arriver. Dans les émeutes, ça nous arrive quelquefois. Dans les peines, on connaît tous ça. Il y a une erreur de frappe là, dans les villes et dans les jeunes, c'est dans les. C'est pas ça, c'est pas dans les villes, c'est dans les. Dans les. Dans les veilles, dans les jeunes. Par la pureté, par la connaissance, la magnanimité, la bonté de cœur, par un esprit saint, par une charité non feinte, c'est-à-dire, c'est pas de la veulerie, c'est pas de l'hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de la justice, dans la gloire ou dans l'humiliation, et vous connaissez tantôt l'un, tantôt l'autre, dans la mauvaise ou la bonne renommée, vous connaissez tantôt l'un, tantôt l'autre, tenu pour séducteur, pour hypocrite, mais en réalité véridique, vous ne faites que de dire la vérité. Si vous êtes aimable avec les uns et avec les autres, c'est pas par hypocrisie, c'est parce que vous aimez véritablement les autres. Comme des inconnus, des hommes, mais en réalité bien connus de Dieu et des saints, comme des mourants, parce que ça nous pend tous au bout du nez, mais voici que nous vivons d'une autre vie, c'est-à-dire de la vie éternelle, comme des mourants, mais nous voici que nous vivons, comme châtiés, parce que quelquefois on a l'impression que Dieu nous châtie, nous dispute un peu. Mais non jusqu'à mourir, nous gardons notre vie intérieure, contristés parce qu'on en a beaucoup de motifs, mais cependant toujours joyeux, comme des pauvres selon le monde, mais enrichissant un grand nombre par les charismes que Dieu nous donne et par la grâce du Dieu qui rayonne en nous même sans que nous le voyons, comme n'ayant rien dans ce monde, mais possédant tout parce que nous possédons la vie éternelle. Ça se passe de commentaires. C'est clair, c'est notre vie quotidienne, et cependant, pas cependant, c'est notre vie quotidienne, mais cette expression, ces expressions de Saint Paul doivent nous encourager à supporter non seulement avec patience, mais supporter avec action de grâce tout ce qui nous arrive et que nous considérons comme notre croix qui nous est. Ce qui nous est contraire, pas de bénéficier, d'être victime d'une mauvaise renommée, d'être humilié, d'être mourant non seulement physiquement, mais même dans notre conscience, par la conscience que nous avons de notre péché, de nos faiblesses. Contristé parce que nous avons l'occasion souvent de l'être, mais ça c'est suivant notre nature humaine déchue, c'est suivant notre logique humaine, mais en même temps dépassant par la grâce de Dieu, dépassant cette condition humaine, d'être toujours joyeux, enrichissant un grand nombre, possédant tout. Vous n'aviez qu'à regarder, ou par photo, ou à voir le visage d'un père Emilianos ou le visage d'un Saint Justin que nous venons de voir récemment, ou d'autres, comme ça. Vous avez vu, et tous les saints que vous connaissez, que vous lisez dans les Évangiles, vous voyez comme ils sont toujours rayonnants, et pourtant, pour les uns et pour les autres, quelle croix ils devaient porter, chacun à leur manière. Mais c'est cette joie-là, ce bonheur-là, ne peut nous venir que d'une chose, c'est de conscience par la foi. Parce que l'Évangile nous le dit, parce que le Seigneur est venu nous l'annoncer. Il n'est pas venu nous le proposer, mais il nous est venu nous expliquer de quoi nous vivions, c'est-à-dire de la grâce de Dieu Et si nous savons que nous sommes les collaborateurs de Dieu, si nous savons que nous dépassons notre nature, ce n'est pas uniquement parce que nous en avons une expérience individuelle, ce qui serait dangereux, ce serait une forme d'ésotérisme. Mais c'est parce que nous croyons que le Seigneur ne nous ment pas, nous savons ce qu'il nous a dit dans les Écritures, à nous de fouiner dans les Écritures pour nous dire quelles sont ses méthodes, comment il agit à notre égard, ce qui nous attend et par conséquence l'attitude que nous devons avoir pour mieux capter sa grâce et mieux rayonner de la grâce. Et cette révélation de saint Paul n'est pas nouvelle. Par exemple, je vais vous prendre que deux ou trois exemples. Il y a beaucoup de papiers, mais n'ayez pas peur, il n'y en a pas pour 3 heures. Et, par exemple, vous avez dans les prophéties d'Isaïe. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur, toi Israël, Jacob, en qui je me glorifierai. En qui je me glorifierai, c'est-à-dire, je te prends comme collaborateur. Et moi, j'ai dit, en vain, je me suis tourmenté. Vous voyez, les tourments dont parle saint Paul. Mais c'est en vain. En vain, je me suis tourmenté. Pour rien, pour du vent, j'ai épuisé ma force. Et pourtant, mon droit est auprès du Seigneur, mon salaire est auprès de mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé dès le sein, pour que je sois son serviteur, que je fasse revenir près de lui Jacob. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, celui dont l'âme est méprisée et qui fait horreur aux nations, à l'esclave des tyrans. Des rois verront et se lèveront, des princes se prosterneront, à cause du Seigneur qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps favorable, on retrouve la même expression qu'a repris saint Paul, au temps favorable, je t'ai répondu, au jour du salut, d'où on tire encore saint Paul son expression, je t'ai secouru, je t'ai réservé, je t'ai établi pour être l'alliance du peuple, pour relever la terre, donc pour collaborer avec Dieu dans ce salut, pour posséder les héritages perdus, pour dire aux captifs, sortez, et au peuple des ténèbres, venez à la lumière. Ce texte-là, l'Église a l'habitude de l'attribuer à la figure du serviteur souffrant, comme on l'appelle dans Isaïe, mais qui est la figure même de celui qui doit venir de notre Sauveur, le Christ. C'est à lui que ça s'adresse d'abord, et c'est lui qui, descendant dans les ténèbres des enfers, dit « sortez et venez à la lumière ». Mais en même temps, ça s'attribue aussi d'une manière collective à tous les membres du corps du Christ qui vivent par le Christ et qui réalisent la même œuvre en collaboration avec lui. Toutes les tribulations que nous ressentons ou que nous ressentirons, toutes les tribulations sont apparentes, mais elles sont vaines, elles sont apparentes par notre vision terrestre, mais elles sont vaines. Qu'est-ce que c'est? C'est en vain, c'est du vent par rapport à la réalité. C'est juste aux yeux des hommes, selon notre logique des déchus. Mais suivant la vision des hommes, la vision du monde, ça paraît être des échecs, mais en fait, le bénéfice en apparaîtra à la fin des temps, quand nous entendrons tous, sortez, venez à la lumière. C'est cette lumière-là qui nous permet de voir, de constater, d'expérimenter l'autre forme de vie qui est à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de chacun de nous et qui nous permet aujourd'hui de vivre aussi dans le royaume des cieux. C'est cette lumière qui nous permet, quand on chante l'hymne des chérubins et quand on est à la liturgie, qui nous permet de contempler à travers les symboles, à travers les lumières, à travers les chants, à travers l'amour qui nous unit avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Mère de Dieu, les anges, les saints. C'est cet amour-là qui nous peut qui peut nous faire percevoir, cette lumière-là, pardon, qui peut nous faire percevoir la gloire de Dieu qui se manifeste dans l'Église et en nous. Et cette révélation, ces bénéfices, ces de support, de la patience que qu'Isaïe nous révèle ou que saint Paul reprend, nous amène à l'illumination non pas simplement après notre vie à la résurrection finale, mais la résurrection c'est aujourd'hui et c'est à sentir dans notre vie spirituelle, donc dans notre âme. Mais la vie de notre âme n'est pas une abstraction, n'est pas une figure, mais véritablement une expérience de notre une expérience vitale et de vie éternelle. Donc saint Paul ne fait pas une révélation toute nouvelle. J'en tiens preuve encore un psaume, le psaume 17. Je t'aimerai, Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon appui, mon refuge et mon libérateur. Mon refuge, pourquoi on a besoin d'un refuge? C'est que ça va mal à côté. Donc on va se réfugier en lui. Mais il est réellement mon refuge et mon libérateur. Mon libérateur, celui qui dit, sortez, venez à la lumière. Mon Dieu est mon secours et j'espérerai en lui. Mon protecteur, ma force de salut et mon soutien. Les douleurs de la mort m'ont environné. Double mort, la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Les douleurs de la mort m'ont environné et les torrents de l'iniquité m'ont épouvanté. Les douleurs de l'enfer m'ont entouré. Les pièges de la mort étaient tendus vers moi. Et dans ma tribulation, j'ai invoqué le Seigneur et vers mon Dieu, j'ai crié. Il a entendu ma voix de son saint temple et ma clameur devant lui est parvenue à ses oreilles. Je passe des versets. Il a envoyé d'en haut son secours, le Christ, et il m'a saisi. Il m'a retiré des grandes eaux. Et il m'a délivré d'ennemis puissants, de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Je passe encore d'autres versets. C'est le Dieu qui m'a ceint de force et qui a rendu ma voix sans reproche, qui a rendu mes pieds pareils à ceux des cerfs et qui m'a établi sur les hauteurs, qui a instruit mes mains pour le combat et rendu mes bras comme un arc d'airain. Tu m'as donné pour protection ton salut et ta droite m'a secouru. Tes leçons m'ont remis dans le droit chemin pour toujours. Et ton enseignement m'a instruit. Tu as élargi mes pas sur le sol. Ma démarche n'a pas faibli. Et reprenez tout le psaume. Vous verrez, c'est du même tabac d'un bout à l'autre. Mais non seulement reprenez ce psaume, mais reprenez tout le psautier. Et vous verrez que c'est la même chose. Allons dans le même sens. Pour nous inviter à la patience à laquelle nous initie saint Paul, à la suite des psaumes et des prophètes, dont Isaïe, dont vous avez entendu la voix. Je reprends un passage de saint Cyprien. Suivant la doctrine de notre Seigneur, nous devenons fils de Dieu parfait. Allez chercher une autre collaboration plus profonde que celle-là. Nous devenons fils de Dieu parfait si la patience de Dieu le Père demeure en nous. Vous vous rappelez ce que disions des anges derniers, vivre de la vie même de Dieu. Et si nous pouvons être patients, c'est parce que nous sommes en communion avec Dieu et que lui étant patient, il nous communique sa patience. Ce n'est pas notre patience, mais c'est la sienne dont qu'il faille accaparer pour la restituer, donc en vivre nous-mêmes bien sûr. Si la patience de Dieu le Père demeure en nous, si la ressemblance divine perdue par le péché brille dans nos actes, et cela, Jésus-Christ notre Seigneur ne l'a pas simplement enseigné par des paroles, mais il l'a accompli dans les faits. Et parmi tous les miracles de vertu où il a montré ce qu'est la divine majesté, il a observé la patience du Père par son inaltérable endurance à lui. Chacun de ses actes, dès son avènement, porte la signature de la patience dont il a fait sa compagne. Quand, de la sublimité céleste, il descend sur la terre, le Fils de Dieu ne dédaigne pas revêtir la chair de l'homme et de porter le péché des autres, lui qui n'était pas pécheur. » C'est tout le thème de la kénose dont nous parlons souvent. « Pendant 40 jours, il jeûne, lui qui nourrit les autres, tous les autres. Il a faim pour que soient rassasiés du pain du ciel ceux qui avaient faim de la parole et de la grâce. Doux et simple, il a aimé ses disciples d'un amour fraternel et daigné laver les pieds des apôtres. Il a pu, jusqu'à la fin, supporter Judas comme une longue patience, prendre ses repas avec l'ennemi, savoir quel adversaire il avait dans sa maison et ne pas le montrer. Il n'a pas refusé même d'embrasser le traître. Il a mené à la fois les incrédules par la persuasion, répondait doucement aux contradicteurs, cédait la place humblement quand on le poursuivait. Dans la passion et la croix du Christ, que d'injures entendues avec patience, que de moqueries supportées. On lui crache au visage, lui qui naguère avait de sa salive donné la vie aux yeux de l'aveugle. On le flagelle, pourtant c'est en son nom que le diable et ses anges sont maintenant flagellés. On le couronne d'épines, lui qui couronne les martyrs avec les fleurs de l'éternité. On le dépouille de son vêtement terrestre, lui qui revêt tous les autres d'immortalité. On lui présente du fiel, à lui qui donne la nourriture céleste. On lui fait boire du vinaigre, lui qui fait boire au calice du salut. Lui l'innocent, lui le juste, lui l'innocence et la justice même. Il est compté parmi les criminels. Le juge est jugé et la parole de Dieu est conduite muette au sacrifice. À la crucifixion du Seigneur, les astres s'éclipsent. Les éléments se troublent, la terre tremble, la nuit interrompt le jour, mais lui ne parle pas, ne fait pas de mouvement, ne déclare pas sa majesté. Jusqu'à la fin, avec constance et persévérance, il supporte tous les tourments pour que la patience pleine et parfaite ait dans le Christ son sommet. Voilà ce qu'il faut imiter. Et Tertullien, prenons l'exemple de Job, nous dit quelque chose d'analogue sur le même sujet de la patience. Bienheureux entre tous, le saint homme Job. Il dépassa tous les exemples jamais connus de patience quand il fut aux prises avec tous les assauts du diable. C'est en vain que le diable tombe sur lui de toutes ses forces. Tant de douleurs ne détournent pas de Dieu le regard et la pensée de Job. Il se dresse devant nous comme un témoignage. Aussi bien par l'esprit que par la chair, par l'âme que par le corps, d'une patience tenue jusqu'au bout, et qui nous invite à ne nous laisser démonter ni par les dommages matériels, ni par la perte des êtres qui nous sont les plus chers, ni même par la destruction de notre corps. En cet homme, quel trophée Dieu n'a-t-il pas remporté sur le diable? Quel étendard n'a-t-il pas arraché à l'ennemi pour l'ériger à sa propre gloire? Voilà un homme qui, à chaque effroyable nouvelle, ne laisse échapper de sa bouche que « Gloire à Dieu ». Et il maudit sa femme quand, lasse de souffrir, elle lui donne des conseils indignes. Eh bien, Dieu souriait. Eh bien, le malin grinçait des dents. Tandis que Job, d'une âme égale, essuyer l'affreux écoulement de son ulcère. Tous les flèches du tentateur s'émoussèrent sur la cuirasse et le bouclier de la patience de Job. Et cet artisan de la victoire divine recouvra bientôt de Dieu même l'intégrité de son corps et les doubles des biens qu'il avait perdus. Enfin, résumant Des commentaires de Saint Grégoire le Grand sur Ézéchiel et sur cette deuxième épître aux Corinthiens. Dans l'épître aux Romains, Saint Paul identifie l'amour du prochain à la patience. Il faut être patient comme Dieu est patient. Mais comment expérimenter, comment exprimer la patience? Pas simplement la patience envers les choses qui sont contraires à notre volonté. Mais il y a une manière toute simple et fondamentale qui prime sur toutes les autres d'expérimenter la patience, c'est l'amour du prochain. Il faut accepter l'autre avec toutes ses limites, sans aucune limite, sans aucune restriction. Avec toute sa pauvreté, l'autre, il faut accepter l'autre avec toute sa pauvreté. L'accepter et l'aimer à fond, tel qu'il est, sans attendre qu'il devienne comme nous voudrions qu'il soit. Cela exige de se faire un avec lui dans l'amour, et dans l'amour du Christ. C'est par l'amour du Christ qu'il nous est accordé d'accomplir une telle œuvre qui est au-dessus de nos forces humaines. Dans la patience, si elle est un acte d'amour, l'homme renonce à lui-même. Et combien de fois nous montrons que l'amour, c'est le renoncement à soi-même, c'est de donner sa vie pour l'autre. Il se donne à ses frères. Il les aime au point de les préférer à lui-même. S'adapter pleinement à l'autre en toutes choses, même minimes, c'est mourir à nous-mêmes, à nos goûts, à notre manière de penser, notre manière de sentir. Dieu a assumé notre nature, ses limites, ses conditionnements, sa mort. C'est ainsi qu'il nous a aimés et qu'il s'est fait l'un de nous. C'est ainsi qu'il s'est fait pécheur avec nous alors qu'il n'a jamais péché. Et c'est ainsi que nous devons faire une seule chose avec les hommes, avec les autres hommes, un seul être avec les hommes, et devenir l'être même du Christ. Voilà à quoi nous mène la patience. Bon courage.